Bienvenue sur Radio 162. Tout de suite, c'est l'émission Mémoire vive, réalisée par les résidents de la Lorientine à Lorient. Bonne écoute.
Merci d'être avec nous sur Radio 162. Aujourd'hui, nous allons explorer l'évolution de la vie quotidienne à travers les années grâce aux souvenirs partagés par nos résidents de la Lorientine. On va aborder ensemble les progrès technologiques, les changements dans les loisirs, l'évolution dans la santé également. Un voyage dans le temps qui promet d'être aussi instructif qu'intéressant. Et pour cette exploration fascinante de notre passé, j'allais dire j'ai des invités, mais je suis invité. Vous êtes vous, chez vous en tout cas. On a autour de ce micro Claude. Bonjour Claude.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Merci également à Armel d'être avec nous.
Bonjour Pierre.
On a Huguette. Voilà, qui va bien se rapprocher de son micro quand elle voudra parler, comme ça on va bien l'entendre. Ce serait dommage qu'on ne vous entende pas, parce que je suis sûr que vous avez plein de choses à nous dire.
Oh là là.
On a Francis également, qui est avec
Merci.
Nous. Et puis Marie-Lou, qui vient de nous rejoindre également. Bonjour Marie-Lou.
Bonjour.
Alors, très heureux de vous retrouver donc sur Radio 162 pour cette toute nouvelle émission. Il y en aura encore quelques-unes, c'est promis. Et donc, je vous le disais, le thème d'aujourd'hui concerne tout simplement une sorte d'exploration dans le temps. Et on va débuter notre périple à travers l'évolution de la vie quotidienne en se plongeant dans le monde du progrès technologique. Des premières inventions aux gadgets de l'ère numérique, comment ces avancées ont-elles façonné notre quotidien. J'aimerais peut-être pour commencer que vous me partagiez les uns et les autres, Claude peut-être d'abord, quelle est l'évolution technologique qui, de votre point de vue, vous a le plus marqué ?
Technologique ?
Oui.
Bon, bah, déjà peut-être la radio, et puis bon, bah, l'électricité.
L'électricité. Vous avez connu, vous, cette période sans électricité ?
Oh, très peu. Très peu, oui, ça, oui, quand même. Moi, je me rappelle en 1935, j'étais jeune, trop jeune, j'avais 3 ans. Et non, déjà, il y avait l'électricité.
Ouais.
Ouais. Mais on entendait parler que chez les gens, il y avait encore des gens qui avaient la.
Ça pompe, ça.
La, comment ça s'appelait ?
La lampe à pétrole.
Les lampes, ouais.
Ouais,
les lampes à pétrole. On avait les lampes à pétrole. Hein. Mm. Oui, ça, ah oui, oui, même jusqu'à l'âge de 10-12 ans, moi j'ai connu les lampes à pétrole. Mais il y avait l'électricité quand même. Hein.
Ouais. Ah oui.
Ça a changé beaucoup de choses.
Ouais.
Armel, l'évolution ou l'invention ou la technologie qui vous a le plus marqué là, quand vous y repensez, si vous deviez en retenir un seul.
Le téléphone.
Le téléphone.
Pourtant, je suis née avec le téléphone au Maroc, oui. Mais après, en France, on a eu... il fallait aller au restaurant du quartier pour passer un coup de fil ou... Pour recevoir un appel.
Ouais.
Ouais. Claude acquiesce, le téléphone, il est arrivé aussi assez tard à la maison.
Bah oui, le téléphone, parce que comme dit Armel, c'est vrai, dans notre quartier, à l'Anvers, eh ben, il y en avait qu'un, c'était la boucherie. Et quand on avait un coup de fil à passer, ben, on allait à la boucherie, puis... Il fallait tourner, là, pour...
Ah, on en reparlera. C'est-à-dire, il y avait une opératrice à l'autre bout, c'est ça, qui vous passait le numéro de téléphone.
Ouais.
Huguette, vous, oui. L'évolution technologique qui vous a le plus marqué dans votre vie ? Ah, monsieur derrière qui nous dit le nucléaire, mais c'est peut-être pas votre choix, vous, Huguette. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?
Moi, je crois que comme j'aime beaucoup la musique, je me suis plutôt jetée sur des disques et des choses comme cela.
L'arrivée de l'électrophone ?
Oui.
Ouais. Il avait quelle place dans votre quotidien, l'électrophone ?
Oh, vous savez, à cet âge-là, vous savez, je ne me rends pas compte.
Non. Vous vous souvenez du premier disque que vous avez eu ?
pas de premier disque.
Le premier que vous avez fait tourner sur votre électrophone.
Ça devait être Ramona.
Et on va pas divulgâcher, comme disent nos amis québécois, mais peut-être qu'on va l'écouter aujourd'hui. Ramona, donc Tino Rossi. Francis.
Alors moi, ce serait dans les années 60, où il y a une évolution, l'électroménager, la voiture et tout ça qui est venu d'un seul coup, 10 ans, quoi. Avant, ça, c'était bien, bien, mais là, vraiment, ça a eu un changement formidable. Surtout, la machine à laver le linge. Je crois que pour les femmes, je crois, quitte d'aller au lavoir, comme on les voyait le lundi matin, là, toutes avec leurs brouettes et tout vrai. Ça, et bien, c'est, tout ça, ça a commencé à changer à ce moment-là. Et puis le dimanche, il a commencé à avoir les voitures. Alors, le maître de maison, parce que les femmes ne conduisaient pas beaucoup, et toute la petite famille partait se promener avec la voiture. Voilà, et puis il y a une grande évolution comme ça. Il y a eu tout, les machines à laver et tout qui a suivi, quoi. C'était beaucoup mieux.
Ça change, ça donne du temps.
Oui, oui. Et la télé commençait, et la télé était déjà bien lancée, déjà. Mais il n'y en avait pas partout, comme disait Claude, là. Il fallait aller, si on voulait voir un match de foot, il fallait aller au bistrot du coin pour voir le match de foot à la télé, quoi. Ouais. Ou courrier fidèle avec Cariano, par exemple, quoi.
Alors, on a eu la radio, on a eu le téléphone, l'électrophone, la télévision, l'électroménager. Pour vous, Marie-Lou, c'est quoi votre...
Le téléphone aussi. Ouais. Chez mes parents, il est arrivé... j'ai insisté parce que moi, en 68, j'étais plus sur l'Orient, j'étais sur Paris. Mais lors d'un week-end, j'ai insisté auprès de mon père pour qu'on aille acheter un téléphone. Voilà. C'était important pour moi qui travaillais sur Paris, pour pouvoir les contacter. Sinon, il fallait aller dans la droguerie à côté de leur maison. Voilà, mitoyen avec nous. La droguerie, oui.
Alors Marie-Lou, pour les plus jeunes qui nous écoutent, et il y en a sur Radio 162 et qui, on l'espère, vont prendre plaisir à écouter cette émission, il faut quand même rappeler que le téléphone dont on parle en ce moment... n'est pas du tout celui que eux ont en ce moment.
Oh non.
Ça n'a rien
à
voir.
Tout à fait.
À quoi il ressemble le téléphone que vous allez acheter avec votre papa ?
Oh, tout simple. Tout simple, oui. On tournait les...
Un cadran ?
Un cadran, oui, ouais. Pour composer le numéro. Numéro, voilà. Ouais. Oui, ouais. Ouais.
Et quand on se trompait ? On raccrochait.
On raccrochait et on recommençait. Oui. C'était ça, oui.
Et on ne pouvait absolument pas du tout mémoriser les numéros de téléphone.
Non, on ne mémorisait pas, non.
Donc on avait, à côté, on avait le petit... soit un cahier, soit...
Soit un répertoire, oui, à côté.
Oui, un répertoire. Voilà, fameux répertoire avec le petit bout de plastique qu'on met sur la lettre. On appuie dessus et que ça s'ouvre sur la bonne lettre.
Hein, voilà.
Voilà, exactement. Donc, vous me disiez tout à l'heure, Claude, la radio, vous l'avez beaucoup écouté.
Ah,
vous
oui.
L'écoutez encore?
J'écoute toujours.
Ouais.
J'écoute toujours les matchs de foot. Les infos, des fois.
Là aussi, il y a eu... Ça a beaucoup évolué, la radio.
Oh oui.
Et je ne parle pas simplement de l'appareil, hein. Je parle effectivement des programmes de radio.
Oui.
À l'époque, effectivement, peu de chaînes de radio avant 1980.
On écoutait toujours la même chose.
Donc c'était quoi, le Tour de France ?
Ah oui.
Le Tour de France.
Ah ouais, le Tour de France.
Tout le monde s'est regardé le Tour
de France. Ah oui.
L'écoutait.
On était à l'écoute. Hein. On connaissait les voix des speakers. Oh, ça c'était super.
Et vous vous rappelez des noms ?
Non.
Non ?
Comment on l'appelait ?
Non.
Le grand Concarneau là, qui commentait le Tour de France, comment on l'appelait ?
Jean-Paul Olivier ?
Oui.
Jean-Paul Olivier.
Jean-Paul La Science, qu'on l'appelait.
Jean-Paul La Science.
Ah, voilà. Oui. Ah, oui.
C'est lui qui commentait le tour de France.
Rapprochez-vous bien du micro,
c'est lui,
Francis.
C'est lui qui parlait beaucoup pour le Tour de France. Mais il racontait pas seulement les courses. Dans la région qu'on passait, il connaissait beaucoup les châteaux, tout ce qu'on pouvait voir. Mais il a quitté, je ne sais plus qui est-ce qu'il fait maintenant. Mais c'était très bien. Jean-Paul La Séance.
Ouais, donc la radio, c'était vraiment le moyen privilégié pour,
oui, pour le là, sport. Là, c'était déjà la télé. Hein.
Ouais.
C'était déjà la télévision quand il était à lui.
Les matchs de boxe à la radio, les foot.
Oui, le foot aussi. Et puis les matchs de boxe autrefois. Dans les années 48, par exemple, quand il y avait un match de boxe, c'était très connu. Il y avait un championnat du monde, par exemple, Cerdan à l'époque.
Avec Cerdan, oui.
Oui, ben, les gens se levaient facilement à 3 heures du matin pour écouter le match. Ouais. Avec le changement d'horaire avec les États-Unis, c'était 3 heures du matin pour nous. Alors il y a des gens qui se levaient pour des matchs de boxe comme ça.
Ouais.
Il n'y avait pas grand-chose. Hein. Quand il y avait les boxeurs, les trucs comme ça, les grands événements, c'était des grands événements. Ça faisait partie des grands. Le Tour de France, ça, c'était les grands événements.
Alors, je vous l'ai dit, on a quelques petites notes là, que l'on m'a fait. C'est des expressions, ou des choses que vous avez dites en préparant cette émission. Je vois par exemple, effectivement, les déplacements qui se faisaient à vélo. Donc ça, j'imagine que c'était avant la voiture. Oui, avant que vous ayez votre voiture, c'était beaucoup le vélo avec lequel vous vous déplaciez.
On a tous connu le vélo, sans doute.
Bon, oui, forcément.
Oh, ouais.
Ouais. Donc ça permettait quand même de faire. On se rend bien compte aujourd'hui des distances qu'on pouvait faire avec son vélo.
Ah oui. On allait au boulot au vélo.
Oui, mais c'était pas loin alors. Mais le dimanche, on faisait face royalement 50 km.
Et le dimanche, on faisait, oui.
Facile.
On allait se balader vers la bourgeoise et puis on faisait des kilomètres, oui.
Bon, j'ai fait le brevet des 100 km, des trucs comme ça déjà, en vélo.
Ah ouais.
Avec Bory et Sévlec et tout la bande. Là.
Ouais. Vous avez tous eu votre permis de conduire autour de cette table?
Oui.
Oui. Huguette, non, vous n'avez pas conduit.
Ah non.
Mais si on
non.
A pas, si
mais
on
j'avais a pas... un père qui n'était pas du tout moderne pour toutes ces choses-là.
Et de votre vie, vous n'avez jamais eu envie de passer votre permis de conduire, j'avais avoir votre voiture.
On habitait Paris. Hein. Ah. Alors c'était trop dangereux, même le vélo. C'est très dangereux de faire du vélo à Paris.
Oui.
C'est très dangereux, monsieur. Hein.
Ah ben oui, ça l'est toujours. Hein. Ça l'était.
Oui, mais il est avec ceux qui s'amusent à passer comme ça. Hein. Il y en a qui se ramassent, mais c'est de leur faute aussi, hein.
Ouais.
Moi, j'ai vu un monsieur d'une rue adjacente sauter comme ça au-dessus de quelqu'un. Enfin, toute la file de voitures s'est arrêtée. Lui a continué à pédaler. Eh bien, il a sauté au-dessus de quelque chose. Il a fait un de ses bons, vous savez, il devait être dans un drôle d'état quand on l'a relevé, hein.
Ah ben, j'imagine, oui. J'imagine. Votre première voiture, si on en parle, quel souvenir vous en avez? Est-ce que c'est un souvenir un peu ému? Vous vous en souvenez?
Oui.
La première fois que vous prenez le volant, vous êtes tout seul. Vous venez de passer votre permis de conduire.
Une deux chevaux.
Une deux chevaux pour Marie-Lou.
D'occasion pour moi, oui. Pour aller au boulot. Voilà. Et faire mes courses.
Début de la liberté aussi.
Oui. J'avais fait mon permis à Paris. Et comme j'étais revenue sur... Enfin, j'ai travaillé 16 années sur Paris et je suis revenue sur l'Orient et j'ai acheté une voiture d'occasion. Voilà, une deux chevaux. Et je me plaisais bien dans ma deux chevaux, ouais. Ainsi que mon garçon, oui.
Quelle couleur la deux chevaux?
Bleu.
Bleu, dadage bleu.
Oui.
Francis?
Ah ben, c'est mon père qui avait, quand j'étais encore chez mes parents, quand il a eu sa voiture en 59, quoi. Il a eu deux fois une 4 chevaux. Puis quand je suis marié, moi j'ai pris une voiture en 64, j'ai eu la mienne, ma Dauphine alors. Voilà. Qui a duré très longtemps d'ailleurs. Et puis j'en ai eu d'autres après, bien sûr. Ouais. Quoi. Voilà.
D'occasion aussi, d'occasion comme Marie-Lou.
La
Dauphine.
La première était d'occasion, oui.
Ouais.
Après j'ai acheté une Volkswagen après. Alors neuf. Et puis après j'ai une Jetta. Et puis pour terminer, j'ai une. Comment on appelle ça là?
Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire.
Je cherche le nom là. Une Renault là. Je cherche le nom, comment ça s'appelle?
4L.
Les 4L,
hein? Non, les 4L de maintenant là, à un moment là.
Une Twingo.
Carré là.
Une Twingo.
Gros, non,
une Kangoo.
Non,
c'est peut-être pour Renault d'ailleurs.
Non, je cherche le nom.
Clio. Là. Bon, c'est pas grave, ça vous reviendra, Francis. C'est pas très très grave. Si vous avez des propositions dans le public, vous pouvez le faire. Puis si vous nous écoutez, vous pouvez aussi nous mettre. Aider Francis à retrouver le nom de sa voiture. Armel.
Oui.
Oui. Donc vous me disiez aussi, vous avez passé votre permis de conduire.
Berlingot. Oui.
Un berlingot. Ah oui, oui. Forcément.
Oui, j'ai passé mon permis. C'était pour aller sur les chantiers. Et j'avais une voiture de fonction, une Simca 1100.
Une Simca.
Simca 1100.
Oui. Ouais.
Après, j'ai eu une 4L, j'ai eu une 4L verte. Et puis, j'ai eu une 106. Et c'est la dernière voiture que j'ai conduite, c'est la 106.
Voilà. Et vous, Claude ?
Eh ben, moi, la première que j'ai eue, c'était en 1959. Et c'était pour le boulot, parce que c'est une camionnette. Alors, comme j'étais poissonnier à l'époque, alors je faisais des tournées avec ma camionnette. Des tournées de poissons dans le quartier, le village. Ouais. Je me rappelle plus de la marque.
Non. Est-ce que vous êtes allé manger du rouge ?
Voilà. Je ne sais pas qui vous avez dit ça l'autre jour.
Ah, c'est sur mes fiches. Ouais. Manger du rouge.
Oui, mais manger le rouge, on l'a connu beaucoup, nous. Enfin, moi, toujours. C'était avant la guerre.
Alors, on va préciser. On mangeait du rouge, notamment aux fêtes de l'Anvers. Mais pas que.
Pas aux fêtes de l'Anvers. On allait le manger de rouge, c'est quand on allait à la côte.
Ouais.
Dans les restaurants de la côte. Soit à l'Aubenaire. Moi, mes parents commençaient par... parce qu'ils étaient commerçants. Alors, ils étaient arrangés avec, donc, eux, le boulanger et le boucher. Et comme le boucher avait une camionnette, alors on allait tous à la côte le dimanche. Et alors, on commençait par l'Aubenaire. Après, on allait au Pérello. Courigan.
Et vous ne mangez pas à chaque fois quand même.
Féroc, c'est tous les dimanches.
Et vous ne mangez pas. Oui, c'est vous alterniez un dimanche.
Non, tous les dimanches, c'était ça. On allait manger le rouge.
Alors, on va expliquer ce que c'est manger le rouge, parce qu'on ne l'a toujours dit.
C'est manger le homard.
C'est le homard.
Le homard à l'armoricaine.
Ah, là là.
Ouais.
Je savais pas.
Ah, bah oui. Bah, je crois qu'il faut être l'orienté pour le savoir. Hein, mais...
Omar au carré.
Oui, c'est ça, les homards. Les jeunes. Les jeunes, avant moi, les jeunes se réunissaient, là, des fois, à Place Plumeur. Et puis, de la Place Plumeur, bah, ils partaient jusqu'à la côte en chantant, bras-dessus. Et puis, ils allaient manger le rouge. Au resto.
Ouais. Puisqu'on est dans les souvenirs et que ça va bientôt être la période du carnaval, vous avez connu ou des carnavals assez mémorables ?
Non.
Non.
Il y en a eu à Lorient, mais il n'y en a pas eu beaucoup.
J'en ai vu, mais pas. J'étais à Paris, c'était dans le midi.
À un moment, il y avait ce qu'on appelle
rapprochez-vous bien du micro, Francis.
Ce qu'on avait, là, il y a un moment, c'était le bœuf gras. Je ne me rappelle pas de ça. Il y avait une grande fête à Lorient et il y avait un bœuf à gagner tous les ans.
Non.
Je ne me rappelle pas de ça.
Non.
Ça marchait comme
en
ça.
En quelle année, monsieur ?
Oh, dans les années 55, tout autour de ça.
Ah quoi. Oui.
J'ai toujours sur mes petites fiches le radio crochet de l'Anvers. Ça a l'air de vous faire sourire, Francis. Est-ce que vous l'avez gagné ?
Oh, jamais. Il y avait des bons chanteurs à l'époque.
À l'époque ?
Oui.
Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais...
oui, pour les chansons d'époque, je parle.
Oui.
Ma femme participait, elle, au Radio Crochet de l'Anvers. Elle l'a gagné.
Elle l'a gagné ?
Ouais.
Alors, donc, il se passe quoi quand on gagne ? On enregistre un album, comme aujourd'hui à la Star Academy
Quand on gagne ? Oh, ben non, rien du tout. On gagnait de l'argent, quand même, je crois.
Un petit peu de sous,
ouais. Ouais, elle gagnait un peu de sous. Puis on allait boire un coup après. Oui. Ça, c'est à cette époque-là, il y avait les fêtes de l'envers.
Cariado.
Après, il y avait Merville, Cariado, je ne me rappelle pas.
Cariado,
quelle époque c'était.
Puis après, il y a eu un Lomikilik, là. La fête des langoustines.
La fête des langoustines, oui.
Il y avait des chars et tout, là.
Ah oui, il y avait des chars, là, oui.
Marie-Lou, vous avez, vous, des souvenirs aussi de ces grandes fêtes populaires?
Ah oui, dans mon quartier, oui, sur Cariado, c'est le quartier, il y avait la fête, il y avait des manèges qui étaient installés sur la place, il y avait au moins deux manèges, et puis de quoi s'amuser, quoi. Prendre le fusil pour avoir des cadeaux, là, voilà.
Ouais.
Et puis il y avait aussi des boules de tissu, là, monsieur.
Le casse-boîte.
Le casse-boîte, voilà. C'était marrant, ça, c'était marrant.
Ouais. Armel, aussi, les souvenirs?
Non, je n'allais jamais aux fêtes. Il y avait trop de travail à la maison, on était 5 enfants, donc...
Oh là, oui.
Mais il y a une autre avancée qui m'a marquée. Autrefois, on allait chercher le lait à l'épicerie avec des bouteilles en verre. Et on avait les pots à yaourt. Chez nous, on était très consommateurs de yaourt, midi et soir. Et les pots à yaourt étaient en verre. Et il fallait tout bien laver, bien, bien laver. Et les bouteilles, c'était difficile parce que si on ne lavait pas bien, le lait tournait. Après, c'est passé dans des cartons. Autant les yaourts que le lait. Et ça a été une avancée technologique, mais... qui a fait beaucoup de dégâts dans la...
Oui, quand on est passé en voilà. Plastique, oui.
Oui, mais enfin, les cartons avec de la bougie, là, avec paraffiné.
Ah oui, paraffiné, oui.
C'était pas bon non plus. Ouais. Hein, donc,
Alors, c'est sûr que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Hein. C'est donc là-dessus, effectivement, le verre est quand même. Le verre est vert. Ouais.
Mais il fallait tellement passer de temps à le nettoyer.
Donc les 5 enfants, c'était chacun son tour?
Non, c'était toujours moi. J'étais la seule fille, donc mes frères, ils ne faisaient rien.
Ils en profitaient. C'était quelque chose à l'époque. C'était le roi. Hein.
Ah oui. Entre mon père et mes frères, moi, du coup, je ne me suis pas mariée. Voilà. J'avais assez obéi tout le temps aux garçons. Donc, stop.
Huguette, elle avait l'air d'être d'accord avec vous.
Oh oui. Oh, l'homme était roi à l'époque. Non.
Ça aussi, c'est quelque chose qui est en train de changer quand même depuis quelques années.
Ouais.
C'est bien, non?
Oui. Maintenant, les hommes, ils donnent beaucoup de main aux femmes à la maison.
Des fois, oui, avec une matraque au bout.
Oh non. Non. Maintenant, tu vois les jeunes...
Oui, mais il y a le travail des femmes qui a fait beaucoup pour que les hommes s'y mettent
ouais.
aussi.
C'est vrai.
Les jeunes,
vrai.
Oui, mais combien
c'est normal. Hein,
combien de décennies vous avez attendu avant de le faire?
On a attendu que des gens comme lui et moi arrivent sur Arif, c'est ça.
mieux vaut tard que jamais. On va écouter un peu de musique, si vous voulez bien, puisque c'est l'heure de faire la première pause. Et là, c'est Huguette qui va être ravie, parce que je vais passer Tino Rossi. Avec Ramona. Uh-huh. Donc, c'est un morceau que vous avez choisi, et je suis sûr que vous êtes capable de le chanter.
Je ne sais pas presque... si je suis capable, enfin...
Enfin, en tout cas, je vais déjà passer Tino Rossi. Et puis on se retrouve tout de suite après pour continuer cette émission.
Ramona, j'ai fait un rêve merveilleux. Ramona, nous étions partis tous. tous les deux. Nous allions lentement, loin de tous les regards jaloux. Et jamais deux amants n'avaient connu de soir plus doux. Ramona, je pouvais alors me griser de tes yeux, de ton parfum, de tes baisers. Et je donnerai tout pour revivre un jour, Ramona, ce rêve d'amour. De tes yeux, de ton parfum, de tes baisers. Et je donnerai tout pour revivre un jour, Ramona, ce rêve d'amour.
Ramona. C'était Tino Rossi sur radio162.fr. On est toujours à la Lorientine avec autour de la table Marie-Lou, Francis, Huguette, Armel et Claude. Merci d'être avec nous. Et bah, si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On a une page sur les réseaux sociaux, on a une page sur Internet. Et donc, vous pouvez nous écrire. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on parlait d'évolution, comment Internet, ça vous parle, ou alors c'est quelque chose que vous... Pff, c'est trop compliqué
pour
aujourd'hui.
Moi, c'est compliqué.
Oui, alors, Marie-Lou.
Ouais, très compliqué.
Ouais.
Le mobile pour joindre mon fils, voilà, parce qu'il travaille sur l'étranger, lui, voilà. Et puis, ah oui, sinon je ne suis pas experte ni pour donner des infos non plus.
Francis.
Oh ben moi aussi, c'est pareil. Hein. J'ai une tablette depuis quelque temps, là, mais j'ai du mal à m'accrocher. Comme...
Ouais.
On me montre bien, mais il faut marquer, j'oublie, il faut repartir. C'est très difficile maintenant.
Ça vous semble compliqué.
Ouais. Mais j'essaye quand même.
Bah oui, pas raison.
Mais un peu de musique de temps en temps, quoi, pour calmer le jeu, puis essayer de taper avec les... Parce que c'est quand même différent qu'avec le clavier.
Qu'avec un clavier, oui.
Mais ça va, ça devrait aller. Ouais. Mais il faudra le temps.
Moi, j'ai une tablette aussi, et je regarde le télégramme, le télégramme, une fois par jour. Voilà.
Sur la tablette.
Mais je ne suis pas technicienne non plus avec la tablette, parce que... Bon, mon fils n'est pas là en ce moment, mais quand il va revenir, il faudra la remettre à jour, quoi.
Mmh.
Oui. Je ne suis pas à l'aise non plus.
Huguette, vous en pensez quoi, vous, d'Internet ?
Moi, je ne me suis jamais servi de ça.
Non. Et puis, vous vivez très bien sans.
J'en avais pas l'occasion. Hein. Je ne vois pas tellement ce que j'aurais fait.
Ouais.
Vous savez, on n'était pas beaucoup modernes à la maison. Mes parents étaient commerçants. Papa était vraiment un chef. C'était encore, vous savez, l'ancienne classe. C'était lui qui commandait. Hein. Moi, je me rappelle quand il était rentré de prisonnier à la guerre, il n'était pas resté longtemps prisonnier parce qu'il faisait partie d'une classe où on n'était pas mobilisé en Allemagne. C'était un officier français prisonnier qui avait dit « Demandez votre liberté, vous l'aurez ». Et il l'a eu. Hein. Et comment vous dirais-je, je ne sais plus ce que je voulais vous dire.
Vous évoquiez votre papa, oui, effectivement. Ah, oui. Vous n'étiez pas une famille très, très moderne au sens...
Pas du tout, ouais. Du tout. Papa trouvait qu'on donnait de trop de liberté aux femmes. Et à côté de ça, maman faisait tout ce qu'elle voulait. C'était un couple très, très uni. Alors le couple, lui, celui-là avait le droit, mais tout le monde n'avait pas le droit. Hein. Ah oui. Oh, il sait faire, papa. Vous savez, il fallait marcher. Ma soeur, j'avais une soeur, elle dit, j'en avais peur de papa. Moi aussi, j'en avais peur de mon père. Hein. C'est pas bon, vous savez, les enfants qui ont peur de leur père. Hein. Pas bon du tout.
Huguette, puisque vous évoquez votre famille et les relations aussi à l'intérieur de cette famille-là, et puisque l'on parle d'Internet, quel regard vous avez, vous, aujourd'hui, sur ces familles où, finalement, chacun est sur son portable ? Ça arrive...
oui.
Enfin, c'est pas... Voilà, je n'allais pas dire que c'est tout le temps, mais ça fait partie, aujourd'hui, des choses qui arrivent. Ça vous désole ? Non ?
Je ne me rends pas tellement compte.
Hein. Non. Armelle ?
Personnellement, j'ai commencé... quand je suis rentrée dans l'administration en 82, j'ai tout de suite travaillé sur ordinateur, enfin pas vraiment sur ordinateur, sur des cartes perforées. C'était tout un circuit. Enfin, à partir de 1984, j'ai eu un ordinateur et j'ai toujours travaillé sur ordinateur jusqu'à la fin. Et je suis ravie de savoir utiliser un ordinateur, un smartphone et autres. Ouais. C'est très pratique, on a tout, ça donne tout. Même ce qu'on ne veut pas.
Ouais, même ce qu'on ne veut pas. Claude, je vous vois écouter avec beaucoup d'attention ce que dit votre voisine.
Oui, parce que justement, c'est tout le contraire d'elle. Je ne me suis pas mis du tout.
Ouais.
Je n'ai rien fait sur Internet. Ah ouais. Dès que j'ai été en retraite, j'aurais pu, à ce moment-là, à 60 ans encore, j'aurais peut-être été capable de crocher dedans et de prendre un ordinateur, mais je n'ai pas fait.
Ah.
Et je ne connais rien. Je suis complètement paumé, moi, là-dedans. J'ai simplement un petit téléphone comme ça pour donner à... un coup de fil aux enfants.
De temps en temps.
Ouais, c'est tout. Non, l'Internet, je ne connais pas.
C'est aujourd'hui presque un passage obligé, hein, puisque pour remplir sa déclaration d'impôt, pour demander un logement, enfin à chaque fois, il faut systématiquement passer par Internet.
C'est
pas toujours simple. J'aimerais qu'on parle d'un autre sujet qui est pas mal revenu également dans ce que vous nous avez transmis. C'est la santé, parce que la santé, c'est quand même important. Alors, il y a peu de médecins à Lorient et ils exerçaient surtout dans les villes. Qui avait dit ça autour de la table ? Il y avait un rebouteux, voilà, c'est dans mes... il y en avait un Plouet.
Ah, c'était pas... C'était quand il parlait d'Arzano, la dame, Madame Courtette.
Oui, il y avait
rapprochez-vous du...
Il y avait un rebouteux à la Nester, déjà.
Ah oui.
Qu'on appelait je ne sais pas son nom,
Carrère, je crois, monsieur.
Il y avait un rebouteux, oui.
Oui.
On allait le voir à la Nester quand on avait... Je ne sais pas, moi, quand ça s'est fait une blessure à la main, quoi, déboîté à l'épaule, par exemple, les gens allaient facilement le voir.
Mais c'était pas un médecin.
Non, c'était un rebouteux.
Un rebouteux.
Ouais.
Oui.
Mais il avait du monde. Hein. Ah, ouais. Parce qu'il mettait en place. Parce que les médecins, généralement, ils mettaient pas...
du micro un petit peu, Francis.
Parce que les saints, à l'époque, je ne sais pas comment ils font maintenant, mais ils ne mettaient pas en place. Hein. Donc j'ai un doigt ici qui était tout de travers, j'étais au service, j'étais le voir où t'es venu trop tard. Il dit autrement je te l'aurais remis en place. Vous voyez, ça, on mettait une bombe dessus, mais ça ne guérissait pas pour autant. Hein. Et puis il me dit, si tu te laisses opérer, après ton doigt, tu ne pourras plus t'en servir. Alors reste comme ça. Et là, maintenant, j'ai plus mal, il est là. Mais... Oui, un détail. Alors on allait facilement chez le rebouteux avant d'aller chez le médecin quand on avait, déboîté le genou et tout. On valait mieux aller chez le rebouteux avant, on était sûr d'être mieux soigné. Autrement, vous mettez des bandes, plein, un tas de radios, un tas de trucs, mais ça ne donnait rien du tout.
Oui.
C'était ça, hein.
C'est ça, oui, 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 oui.
Parce qu'il y a bien les kinés, mais non, mais les kinés ne mettent pas en place a priori. Ils massent, ils font tout ce qu'on veut, des mouvements, mais ils ne mettent ouais, pas en place. Ouais, ouais. Le rebouteux, lui, pour nous, c'était très important.
Qui avait un médecin qui ne tirait jamais son chapeau pendant la consultation?
Ah, moi, oui. Chez nous.
Le petit paysan.
Le petit paysan.
Ouais.
Ouais, ouais. Il était médecin généraliste. Il avait son cabinet rue Poliès, oui, c'est ça. Et... Ah non, il tirait jamais son chapeau.
Non, non, il tirait toujours son chapeau, sa tête, même en auscultant.
En auscultant maman, par exemple.
Vous n'avez jamais vu sa cheveux.
Et tout, il avait toujours son chapeau.
Toujours le chapeau. Oui, oui. Ouais.
Vous n'avez jamais vu ça?
Ben non, je n'avais jamais vu ça, non.
Mais son bureau, tout le temps son chapeau.
Et au bureau, c'était pareil, oui, oui, oui.
Et quand il venait, il buvait toujours un coup de roule avec mon père. Voilà ce que c'est écrit.
C'est moi, ça, oui. Ouais. Ah oui. Bon, parce qu'ils se connaissaient de longue date. Oui. On était... Je suis née dans le Finistère, dans la commune de Kérien qui existe encore...
Il était de Kérien.
Il était de Kérien. Donc mes parents le connaissaient de longue date. Donc après la consultation pour maman, pour mon frère ou pour moi, papa lui offrait un canon, comme disent les messieurs qui vont au bar.
Ouais.
C'est pour ça qu'on l'appelait le petit paysan, parce qu'il venait de Kérien, puis il avait toujours son chapeau sur la tête. Quoi.
Voilà, oui, oui.
Mais c'était un bon médecin, il avait un diagnostic.
Ah, son diagnostic était bon, hein.
Ah, oui.
C'était un chapeau de paysan qu'il avait sur la tête?
Ouais. Mais non,
un chapeau normal,
ah, bon.
Pour l'homme, oui.
Ah, ouais.
Mais il ne le tirait jamais.
Pour,
oui.
Pour dormir, peut-être.
Ah, peut-être.
À savoir.
À savoir.
Dans ce que vous évoquiez, notamment le canon après la consultation, il y a aussi quelque chose qui a quand même changé ces dernières années. C'est le rapport que l'on peut avoir, notamment avec l'alcool.
Oui.
Alors, je ne sais pas si c'est une légende, mais il paraît qu'il fut un temps où dans les cantines, il y avait la possibilité de boire du rouge.
Ah non.
Je sais pas si c'est,
enfin,
vrai,
moi,
c'est pas vrai, mais j'ai entendu parler de ça. Alors,
ah non.
Non.
Mais mais d'une manière générale, c'est vrai que le rapport à l'alcool a changé. Je sais plus. C'était voilà. À l'époque, on buvait beaucoup, notamment du cidre. Par exemple, quand il y avait des battages, il y avait beaucoup de monde travaillé. On buvait beaucoup, beaucoup de cidre. Je sais pas qui a parlé de ça, des battages. Vous remarquez aussi que la consommation d'alcool a un peu diminué par rapport aux années, ou alors qu'on fait fausse route?
Les habitudes ont changé, quoi. C'est surtout ça, quoi.
Ouais.
Ouais.
Armel.
Mais je pense que autrefois il n'y avait pas les médicaments, enfin oui, pour calmer les enfants, et on leur mettait, paraît-il, enfin dans ce que j'ai lu, dans tout ce que j'ai lu. On leur mettait du calva dans le biberon pour qu'ils dorment. Et alors on faisait des petits ivrognes, en fait.
Alcooliques.
Bah oui.
Des alcooliques.
Alors, après ça faisait, ils buvaient, ils allaient au bar, ça les dérangeait pas. C'est ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu. Non, nous on n'était pas, on vivait en ville,
ouais.
Mais dans les campagnes c'était comme ça.
Ouais.
Ils mettaient
à l'époque, j'ai pas vu, moi.
Ben, quand ils mettaient les bébés au-dessus de la, ils pendaient les bébés par le molleton.
C'est horrible.
Au-dessus de la cheminée, mais oui c'est vrai ça.
Oui.
Au-dessus de la cheminée, ils pendaient le bébé, ils avaient pas froid aux pieds, les enfants. Mais il fallait que la famille puisse vaquer à ses occupations. Pour ça, on mettait de l'agneau dans le dans le biberon.
Ah, oui, j'ai oui, jamais oui. vu ça. Alors, faire ça. En Picardie, je n'ai jamais vu faire ça. Jamais.
Ah, si. Moi, j'ai jamais entendu non
moi,
plus.
Moi, j'ai lu les livres de Michelet, j'ai jamais vu ça.
Ah ouais. Non, mais ça, Michelet, c'est dans ça le sud. Monte, hein. Oui, non, mais c'est pas. Non, mais je parle Bretagne et Normandie.
Ah, Bretagne et Normandie. Ah.
C'est ce qu'on m'a dit. Hein.
Normandie, j'ai connu. Mais j'ai pas
alors, si vous juste passez votre micro à.
J'ai jamais vu ça en Normandie. J'ai vécu en Normandie. Moi, j'ai été élevée en Normandie. Oh, ouais. J'ai jamais vu ça en Normandie.
Mais les bébés, pardon, Armelle, les bébés là, au-dessus du feu, pourquoi?
Pour qu'ils aient chaud.
Moi, j'ai jamais vu ça.
Ah non, moi non plus.
Ils étaient pendus.
Ah non, j'ai pas connu ça non plus.
Pas pendus par le cou.
Ah oh, non.
Non, suspendu en fait.
Suspendu quoi.
Suspendu, oui. Ah oui, ok. En haut de la cheminée, là, au bout.
Ouais. Vous, c'était où ça, la campagne, non? Moi, j'ai jamais vu
oui,
ça.
Parce que
non, moi non plus. Non.
J'ai jamais entendu parler de ça.
Rapprochez bien votre micro de vous, qu'on vous entende.
Personne n'a entendu de
non, non, non. J'ai jamais vu ça.
En tout cas, Armelle, je peux vous assurer qu'à la radio, on a parfaitement l'image. Là. Et c'est pas... C'est un peu flippant quand même.
Mais c'est vrai que ça existait.
Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, si vous avez des témoignages que vous avez envie de partager avec nous sur ce sujet-là, il ne faut pas hésiter. On continue juste à parler de la santé, parce que moi, il y a des choses quand même qui m'étonnent. On parle de ventouses.
Oui.
Oui.
Ça fait l'unanimité, là, pour le coup. Oui. C'est quoi alors les ventouses?
C'est comme des pots de yaourt, si vous voulez.
Les pots les mêmes pots que ceux d'Armel.
Qu'on mettait sur le dos. Quand j'étais gamine, j'en ai eu.
On mettait un bout de coton.
Un bout de coton enflammé.
Il fallait que le bout de coton enflammé enlève l'air.
Voilà. J'ai connu ça. J'ai eu ça. Je devais avoir 8 ou 9 ou 10 ans.
Ou 20 ans aussi.
On en a mis à la maison.
Ah oui.
Ma mère le mettait ça. Ou des sinapismes alors.
Ah oui, alors. Les sinapismes aussi.
À la moutarde.
Après, oui, après. Après l'évolution. C'est l'évolution, oui.
Vous appelez ça comment? Un sinapisme?
Cataplasme.
Un cataplasme.
Avec à base de moutarde, alors on colle ça sur la poitrine et puis ça chauffe.
Ah oui, ça chauffe.
C'est pour
décongestionner
l'arbre bronchique, voilà.
Et bon.
Ah, c'est très connu, ça, les
c'est très connu, oui.
J'en ai vu.
Oui, ouais.
J'en ai eu il y a 5 ans.
Quand j'ai déménagé dernièrement, dans la cave, c'est parti avec le gars qui a tout ramassé.
Oui, oui.
Il y avait encore les bandeaux, ça.
Oui, oui.
Alors, Mireille qui nous dit là, elle est un petit peu hors champ, puisqu'on ne l'entend pas bien, puisqu'elle n'a pas de micro, mais elle disait qu'il y a encore combien?
Il y a 5 ans.
5 ans.
Ouais. Il y a 5 ans, oui, moi je n'ai plus su sortir à partir de 18, donc avant 2018, j'ai encore eu des ventouses. C'est un kiné qui fait de la biokinergie et qui a des notions d'ostéopathie.
Bon.
Il est tout jeune, il a mais quarantaine d'années.
On soignait quoi avec ça quand même?
C'est quand on avait pris froid, on avait une bronchite, par exemple.
Oui, une bronchite.
Une bronchite,
oui, c'est surtout les poumons.
On n'allait pas chez le médecin pour une bronchite.
On n'allait pas chez le médecin, ça c'est vrai.
On se couchait, et puis claque, sur le sinapisme, ventouse, à grotte, on parlait d'alcool, mais souvent, à 10-12 ans, on nous donnait facilement, exceptionnellement, de l'eau chaude avec une tranche de citron et un petit peu de rhum dedans. Mais on n'avait qu'un 16 ans. Une fois tous les 2 ou 3 ans peut-être. Hein, c'était pour comme les gosses qu'on vient de dire. Là. Juste un petit peu pour mettre dans l'eau chaude. Quoi, si vous voyez, il y avait 3 fois rien. Quoi. Un dé à coup de 10 ans. Quoi. Mais ça, c'est arrivé, ça. Un grog, qu'on appelait ça.
Autrement.
Il y avait les grogs.
Ah oui. Armel.
Jamais ça, les grogs.
Les ventouses aussi ont servi. On mettait dessous une sangsue.
Ah.
Sous la ventouse, on mettait des sangsues.
Oui, pour le sang.
Ah oui, mais ça.
Oui, c'est ça, pour retirer le sang.
Mais nous, on faisait ça quand on était gosse au bord de l'eau. On prenait des sangsues, on mettait sur nos jambes quand on est jeune, et puis quand on tirait, on voyait le sang qui partait, on s'amusait comme ça au bord du scorp ici. Là.
Fantastique les jeux. J'adore.
on se mettait plein de sangsues sur les jambes, là, pour jouer, quoi.
Ben, elle venait toute seule.
Oui. Mais, oui, si on n'amenait pas les bêtes.
La vaccination à l'école.
Ah oui, il fallait aller vendre des timbres. Il fallait aller vendre des timbres.
Quel rapport avec la vaccination alors? Dites-moi, parce que là...
Anti-tuberculeux. Voilà, anti-tuberculeux.
Ça, je me souviens bien.
Racontez, Huguette, alors.
Oh, vous savez, monsieur, on vendait ça dans la rue, on la vendait. Oui. Moi qui étais à Paris, j'étais dans la rue. On arrêtait les gens pour leur dire, vous voulez un timbre anti-tuberculeux? Oh, les gens prenaient bien, hein.
Ah oui, oui.
Le timbre anti-tuberculeux, il avait du succès, hein.
C'était à un franc le timbre.
Non, je me rappelle
pas le prix, mais je me rappelle. Vous voulez un timbre tuberculeux, qui dit.
Et les sous, c'était pour la recherche? Les sous, c'était pour...
C'était pour financer la vaccination.
Ah, pour financer la vaccination.
Ah oui,
Oui, effectivement, moi je vois ici, on marque diphtérie, tétanos et tuberculose.
Ah, et la polio, parce qu'il y avait la polio à l'époque.
Oui, il y a eu la polio.
Bah oui. Ah oui, il y a eu de la polio.
Comme on vivait toujours de la même façon, on ne s'apercevait pas qu'on a changé comme on voit maintenant. Hein. On parle de maintenant, mais nous, c'est normal quoi, qu'il s'est passé.
Oui,
on n'est pas étonné de...
Ça a glissé, en fait.
Ça glisse comme ça. Hein.
C'est pas des escaliers.
On dit pas, tiens, mon affaire.
Approchez-vous bien de votre micro.
Depuis tout ce qu'on parle, là, qu'on avait 10 ans, 12 ans, on croit que c'est pour tout le monde comme ça, quoi, finalement. Alors que c'est plus ça du tout.
Et alors, c'est pareil, je continue, hein, je lis ma petite fiche. Hein. J'ai l'hôpital maritime, c'était l'hôpital des Allemands, et l'hôpital Bodelio, c'était pour les Lorientais.
Pendant la guerre.
Pendant la guerre. Qu'est-ce que j'ai encore sur mes petites fiches? Alors là, après ça, on parle de... Je pense que ça n'a rien à voir avec dessus, parce qu'on parle de la saillie de la vache.
Ah.
Alors, je ne sais pas qui... Qui a évoqué cette histoire-là, avec le taureau? Hein?
Qui ose?
Qui est-ce qui va nous parler de ça? C'était un... Ah. Vous étiez âgé de 8-10 ans, non? Personne des 11?
Non.
Alors c'est peut-être pas autour de la table qu'on a parlé de tout ça. Je vous propose de refaire à nouveau une petite pause musicale, et puis on se retrouvera pour la toute dernière partie de l'émission. Il nous reste une dizaine de minutes encore à passer ensemble, et l'occasion encore une fois de feuilleter l'album Souvenir, et de voir un peu ces évolutions qui ont marqué nos vies et nos histoires aux uns et aux autres.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent.
C'est loin,
hein, Charles Aznavour.
Les 20 ans.
C'est loin, les 20 ans, Marie-Lou.
Oui.
Ouais. Ça ressemble à quoi, les 20 ans?
À pas grand-chose.
Alors, je vais vous poser la question, d'ailleurs, un petit peu à tous, si vous voulez bien.
Oh ben, Marie-Lou, mes 20 ans, ça s'est passé en deux week-ends. Les trois cousins de Paris sont venus, plus les amis de Lorient. Et on a partagé les deux week-ends. On est allé au resto, voilà.
Ouais. Vous faisiez quoi à 20 ans?
À 20 ans, j'étais encore à Lorient, oui. Chez mes parents, oui. Je suis partie en 61 sur Paris, oui.
Ah, vous n'étiez plus en famille?
Non, j'étais plus en famille. En 61, je suis partie sur Paris. Et j'ai fait des études d'infirmière, voilà. Et je suis restée 16 ans à la Pitié-Salpêtrière à Paris, grand hôpital que j'admire beaucoup. Et voilà.
Comme c'est drôle.
Voilà la carrière que j'ai faite après. Je suis revenue en 75 sur Lorient. J'avais des problèmes de garde avec mon gamin. Alors, maman étant encore là, elle me l'a gardée et j'ai eu la possibilité d'être embauchée à l'hôpital Bonnelio, le vieil hôpital.
Le vieil hôpital.
Oui, voilà.
Francis,
oh, bah, mon rêve 20, spécial, mais, rien
20 ans
spécial.
Non. Vous travaillez à 20 ans?
Ah oui.
Tant bien dans le micro quand vous entendez.
J'étais rentré à l'Arsenal comme apprenti en 49 déjà. Et puis à 20 ans, bon, j'avais déjà été apprenti 3 ans, ça me faisait 18, et j'avais travaillé depuis 2 ans comme fondeur-mouleur à l'époque. Après, j'ai changé de métier. Mais le jour de mes 20 ans, j'étais parti faire un championnat de cross à Nantes, le jour de mes 20 ans.
Le cross de course à pied?
Course à pied, oui. Ah oui, je courais beaucoup à l'AS Arsenal ici. Alors, on était en pleine course, là-bas, on avait arrosé ça le soir, d'ailleurs. Ouais. J'ai manqué de me faire écraser, je me rappelle, parce que ici on klaxonnait dans les rues autrefois. Et puis... Et puis, depuis un moment, il klaxonnait plus. Si bien que j'ai manqué de passer 2 ou 3 fois sur une auto, parce qu'avant, quand il y avait quelqu'un qui traversait, parce que là, il n'y avait plus rien. Et j'ai manqué de me faire balancer 2 ou 3 fois dans ce genre. C'est tout. Voilà mes souvenirs. Ah. Et alors, le soir, on a arrosé ça pour rentrer. On est rentré en chantant dans le cœur, bien entendu, comme on faisait toujours, quoi. Puis on avait couru, on avait fait un cross ce jour-là. Puis voilà, c'est tout. Ça s'est bien passé comme ça. Il n'y a rien de spécial.
Huguette, avoir 20 ans à Paris?
À Paris, à 20 ans, ben écoutez, j'ai eu une petite sœur quand j'avais 15 ans. Alors j'ai en partie élevé ma petite sœur. Puis je faisais pas grand. Vous savez, j'avais pas beaucoup le droit à la parole à la maison. Hein. Papa commandait à 100%. Hein.
Ouais. Ah, oui. À quel âge vous avez quitté le nid?
Ben, je l'ai quitté, oui et non, parce que j'ai eu ma petite sœur. C'est moi qui ai élevé la petite sœur. Alors, j'avais 14 ans quand j'ai eu la petite sœur.
Ouais.
Oh, j'aimais pas ça, monsieur. Parce que j'aimais pas. C'est pas que j'aime pas les enfants, mais j'avais pas envie du tout de quitter l'école à 14 ans, voyons.
Ah, oui. Ah, oui.
Moi, je voulais aller au moins au brevet, au moins, pour être libre. J'étais quand même pas idiote. Hein. Puis je m'étais entendue avec le directeur d'une banque qui était ami avec mes parents. Il me dit, écoute, il faut absolument que ton brevet élémentaire pour que je puisse faire quelque chose pour toi. Sinon, je ne peux pas, sans diplôme, je ne peux rien faire. J'ai rien pu faire, j'ai aucun diplôme. Il ne voyait pas. Plus tard, disait papa, de toute façon, tu resteras chez toi. Pour lui, c'était ma situation. Mais comme ils étaient commerçants, vous savez, ça avait une certaine notoriété d'être commerçant, hein, quand même. Hein. Tu ne travailleras pas. Eh bien, tu seras chez toi, tu n'as pas besoin d'avoir de ceci, de cela. Hein. Oh, puis ils étaient autoritaires. Hein. J'avais un père, il était autoritaire. Hein.
Ouais, c'est ce que je comprends, en tout cas.
Ah oui, il était, croyez-moi. Ma soeur m'a dit un jour, tu sais, j'en avais peur de papa quand j'étais petite. Ben, je dis, moi aussi, j'en avais peur, tu sais. C'est pas drôle, vous savez. Il faut pas se rendre faire ça. Hein. Les enfants n'ont pas besoin d'avoir peur de leur père, hein. C'est pas bon, hein. C'est comme ça qu'après, on en voit qui font des bêtises ou qui sont quelquefois pas irréparables. Il y a un tas de choses dans la vie quand même qu'on arrive même à réparer dans certains cas. Puis on fait avec, hein, quand on...
Oui.
Oh. Armel, c'est quoi 20 ans avec... alors, 4 frères et sœurs ? 4 frères.
4 frères, quatre oui. Frères. Mais à 20 ans, j'avais quitté le lycée. Mais mon père m'interdisait de faire quoi que ce soit.
Voilà.
J'avais une fille, c'était fait pour rester à la maison.
Voilà, ça ressemble bien, vous savez.
Et pourtant, il était catholique. On était catholique.
Hein. Mais c'était partout pareil, c'était madame.
J'ai voulu aller faire des études d'infirmière à Paris.
Il n'a jamais voulu.
Alors, j'ai rien dit.
Moi
je me suis inscrite et puis je suis allée à la rentrée, voilà. J'avais rien dit. Et ça n'a pas plu à mon père. Ce qui fait que quelques mois après, il est venu me chercher. J'ai besoin de toi.
Voilà, et ça. Alors ?
Eh bien, je n'ai pas fini mes études d'infirmière.
J'ai besoin mon de père, toi, voilà. Alors mon père m'avait dit, si un métier que tu ne feras jamais avec moi, c'est le métier d'infirmière. Tout de suite. Il voyait le mal partout, madame. Partout.
Mais t'as raison, c'est vrai. Ah ben, le mien pareil, alors sans doute, oui.
Oh oui.
Oh là là, voilà.
Claude, vous étiez poissonnier.
Pas à l'époque. Non, à l'époque, je travaillais. Et on n'avait rien fait de spécial. Non, On avait invité les copains, je sais, à la maison quand même. Mais c'est tout. Rien de spécial pour les 20 ans.
Ouais.
Ça, juste. Les collègues, boire un coup, chanter le soir. Non.
Et les amis, on arrive déjà presque à la fin de l'émission. Avant de conclure, est-ce qu'il y aurait quelque chose dont on n'aurait pas parlé et qui vous semblerait peut-être intéressant à évoquer avant qu'on referme notre album pour cette fois-ci.
Une petite réflexion. Lorsque la radio est arrivée dans les maisons, dans les foyers, mes parents écoutaient du théâtre le samedi soir et dimanche soir.
C'est ça, oui.
Tous les samedis soirs et tous les dimanches soirs. Donc nous, on allait dehors ou dans sa chambre chacun, et il ne fallait pas les déranger.
Ah, oui.
Ils étaient dans la cuisine, devant le grand poste radio d'autrefois. Quoi.
C'était,
voilà,
c'était, ouais. C'était leur moment.
Oui, voilà.
Ouais. Les uns les autres, les unes les autres. Non, on a fait à peu près le tour de notre album photo. En tout cas, il me reste à vous remercier déjà pour votre accueil et puis aussi pour votre collaboration. C'est pas évident, c'est la première émission qu'on fait ensemble, la première vraie émission qu'on fait ensemble. Bon, ça s'est bien passé. Ça vous a plu ?
Ah oui.
Vous reviendrez ?
Ah oui. Bon. Oui.
Voilà. Il va falloir juste trouver des sujets pour la prochaine fois maintenant. Voilà, en tout cas, merci à vous toutes et à vous tous. Merci à vous également de nous avoir écoutés de l'autre côté du poste. Cette émission, si vous l'avez aimée, si vous avez envie de la réécouter, si vous avez envie de la partager avec vos amis, vous pouvez le faire puisque elle sera disponible dans les prochains jours sur notre site internet radio162.fr et vous pourrez la télécharger en podcast. Voilà, il me reste à vous remercier et puis remercier également notre public qu'on peut peut-être entendre applaudir parce qu'il était là et il vous a soutenu. Merci à vous et puis merci également aux équipes ici de la Lorientine aussi à nous accompagner dans ce projet. Voilà, à bientôt à toutes et à tous.